Bonjour mes frères et mes sœurs. Comment décrire cet âge où nous vivons? Est-ce un âge de progrès ou un âge de folie? Avons-nous fait des pas en avant ou des pas en arrière? Comment décrivez-vous en effet le siècle dans lequel nous vivons, où nous avons eu deux guerres mondiales déjà et une troisième guerre est déjà sur la scène? Nous avons fait des progrès fantastiques, certes, mais en même temps, nous avons fait des reculs incroyables. Nous avançons à pas de géant, mais nous avançons en arrière. On pourrait dire que le XXe siècle, le XXIe siècle, ce sont des siècles où les craintes humaines ont empiré. Eh oui, regardez voir autour de vous, regardez voir où nous en sommes. Les hommes ont peur de quoi ? Ils ont peur de tout. D'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, oui. Ou bien de tomber malade, certes, car les maladies augmentent. Bref, on a peur de tout. Pourquoi ? On a perdu ce qu'on appelle la foi en Dieu. Pourquoi ? La jeunesse ne voit pas d'avenir devant elle. Non, hélas, non. Et les adultes n'ont rien à regarder pour avoir des souvenirs heureux. Vous direz, mais vous êtes pessimiste ? Pas du tout. Je constate ce que vous constatez, seulement je dis exactement ce que je vois, sans cacher rien. Une chose est certaine, nous vivons entre deux mondes. Le monde où nous vivons, d'une part, et le monde où nous vivrons lorsque le Christ reviendra sur cette terre. Il est temps de se réveiller, mes frères et mes sœurs. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir. Il est temps, que nous soyons jeunes ou adultes, de voir les choses les yeux ouverts et de constater ce qui se passe et de savoir ce que nous pouvons faire. Car il y a des choses à faire. Nous devons agir. Nous devons changer ce que nous pouvons changer et ensuite accepter ce qu'il faut accepter, mettons, d'une façon positive, les yeux ouverts, avec courage, avec fermeté. Car une chose est certaine, les événements qui sont devant nous ne vont pas s'améliorer, au contraire, ils vont empirer. Je vous dis, il est temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux et d'agir avec courage, de rester proche de Dieu, d'avoir foi en Dieu, et face aux événements terribles, ne pas fléchir les genoux. Une chose est certaine, nous devons faire preuve de courage. Courage face à la nuit. Courage aux astuces de Satan. Courage face à tout ce que Satan fait pour nous décourager. Nous devons faire preuve de fermeté, de loyauté, et nous devons en même temps faire tout ce que nous pouvons faire pour que la vie, qui est déjà difficile, ne soit pas insupportable, pour ainsi dire. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le courage. Courage face à l'ennemi. Courage pour vaincre l'ennemi. Courage pour ne pas fléchir les bras ni les genoux devant les difficultés de la vie. Car ces difficultés augmentent de plus en plus, s'aggravent de plus en plus. Dieu est pourtant avec nous. Dieu est pourtant vainqueur. Dieu ne va pas nous lâcher. Une chose est certaine. Dès notre naissance, nous nous sommes demandé pourquoi nous sommes nés. Beaucoup de gens naissent et meurent sans jamais connaître la réponse à cette question. Pourquoi sommes-nous nés? Qu'est-ce que Dieu, si Dieu existe, diront certains, demande de nous. Nous savons qu'un homme averti en vaut deux. Voilà pourquoi nous autres, dans l'Église de Dieu, nous voulons vous avertir, vous qui n'êtes pas appelés encore par Dieu pour connaître le but de la vie. Cette vie-ci, telle que nous la connaissons, sans l'aide de Dieu, sans les conseils que Dieu nous donne, sans le projet que Dieu a pour nous, cette vie, dis-je, ne vaut pas grand-chose, n'a pas grand-chose à offrir. Humainement parlant, il n'y a rien, franchement. Voilà pourquoi je vous avertis, car un homme averti en vaut deux, qu'on nous disons. Non seulement les événements autour de nous s'aggravent, non seulement nous voyons l'avenir avec des yeux fermés, pour ainsi dire, mais encore, l'Éternel Dieu nous donne des avertissements dans la Bible, des avertissements pour que nous puissions savoir pourquoi ces choses arrivent et ce que devrions nous faire nous-mêmes. Avant toute chose, mes frères et mes sœurs, faites preuve de courage. Avant toute chose, sachez que Dieu est avec vous si vous vous approchez de lui. Sachez que si vous parlez à Dieu, Dieu vous écoute. Mais il faut que vous puissiez vraiment parler avec courage, avec force, avec compréhension. Et en même temps, toujours savoir que si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, comme de tous les autres apôtres, mais surtout de l'apôtre Paul, les choses allaient mal. C'est que l'apôtre Paul a écrit dans ses épîtres, il en a écrit 14, il décrit ce qui va se passer et pourquoi ces choses passent et ce que nous pourrions faire nous-mêmes. Prenez le temps, je vous prie, prenez le temps de lire la Bible, d'étudier la Bible, de voir ce que la Bible dit en ce qui concerne le siècle présent où nous vivons. Notez-le. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, Paul a écrit, « Sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Voyez-vous, déjà un avertissement. « Car les hommes, dit-il, sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, et traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ensuite, Paul ajoute au verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi, dit-il, à vous et à moi, de ces hommes-là. » On dirait que l'apôtre Paul parlait à nous aujourd'hui, car ce qui se passait il y a 2000 ans se passe encore aujourd'hui, et les choses n'ont pas changé. Rappelez-vous les paroles du Christ. Le Christ qui a dit, par la bouche de l'apôtre Paul et des autres apôtres et de tous les autres prophètes, le Christ a dit, écoutez, ouvrez les yeux et suivez des instructions divines. Ensuite, dans Jean chapitre 6, verset 33, le Christ a dit lui-même, il dit, je vous ai dit ces choses-t-il afin que vous ayez la paix en moi. Notez-le, la paix en Christ. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, dit-il, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le Christ qui parle. Ce sont ses paroles à lui. La persévérance est indispensable dans tout ce que nous faisons. Aucun succès en ce bon monde n'est possible sans persévérance. D'autre part, le découragement ne vous amène nulle part. Aussi longtemps que vous poursuivez le chemin avec courage, la réussite est possible. C'est une vérité de la palisse, certes, mais en même temps, je peux vous dire que faites votre part. Si vous faites votre part conformément à ce que le Christ a dit dans la Bible, si vous ne vous découragez pas, le succès est toujours possible. Vous savez, ce qui se passe maintenant, c'était déjà prédit. La Bible en parle. Le Christ a parlé de l'époque de Noé. Notez-le. Luc 17, versets 26 à 30. Le Christ dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est le Christ qui parle. Il sait ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noé? Verset 22, Luc 17. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Voilà un avertissement très sévère. Ensuite, les Christiers, verset 28, ce qui arriva du temps de Noël arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où l'eau est sortie de Sodome, cette pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, c'était des paroles d'avertissement et elles sont prononcées par notre Créateur suprême. Dieu a permis à nous tous de faire le choix. Dieu nous donne la connaissance, Dieu nous ouvre l'esprit si nous cédons à sa volonté. Sachez cependant que la crainte qui existe dans ce bas monde ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous invite à des décisions qui pourraient créer en nous la crainte. La crainte nous vient de Satan le diable. Le Créateur, une création à l'époque, dès le commencement, qui a perdu son existence, car Satan a voulu céder à l'ambition et a perdu tout ce qu'elle avait. Satan avait au commencement la force, et il aurait pu garder cette force, mais à cause de sa vanité, il a perdu et sa sagesse et sa puissance et tout ce qu'il avait. Et aujourd'hui, la plupart des hommes se laissent influencer par Satan, se laissent instruire par des fausses idées qui viennent de Satan. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde, je dirais, décrit par Satan à sa façon, encouragé par Satan à sa façon, et il nous influence par ses fausses idées, des idées de rébellion, des idées de vanité, des idées qui renient Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Si vous faites cela, vous aurez la garantie absolue de réussir. Mais d'autre part, si vous vous soumettez à Satan, à ses idées, à ses lois même, dès ce moment-là, vous aurez la crainte dans le cœur, la crainte dans votre esprit, la crainte dans votre vie. Jean dit, sous l'inspiration divine, la crainte n'est pas dans l'amour. Dieu est amour, donc il n'y a pas d'amour dans Dieu. Si, il y a de l'amour dans Dieu, mais il n'y a pas de crainte. Pour autant que vous soyez proche de Dieu, pour autant que vous fassiez votre part, n'ayez pas peur, car la crainte n'est pas dans l'amour. Mais de l'amour parfait, écrit Jean, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, dit-il, nous aimons Christ, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Ce sont des paroles profondes. Nous aimons Dieu parce que le Christ, parce que Dieu nous a aimés le premier. Versets 20 à 21, nous lisons toujours un Jean, « Si quelqu'un me dit, ou si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qui haïsse son frère, est un menteur. » Regardez voir. Si vous dites que vous aimez Dieu et vous haïssez votre prochain, vous êtes un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Voyez-vous, ce sont des paroles profondes. Voilà comment vous pouvez comprendre ce que c'est que la vie, comment vous pouvez vraiment savoir ce qu'il faut faire. N'ayez pas peur, n'ayez peur de personne, de rien, mais ayez les yeux fixés sur le Christ. Obéissez à ses commandements, faites ce qu'il vous dit. Jean 16, verset 33, le Christ a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Regardez voir, c'est une assurance fantastique. Le Christ nous dit, vous ayez la paix en moi. Ensuite, il nous avertit, il dit, le même verset 33, Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage, en effet. Pourquoi? Parce que le Christ a dit, j'ai vaincu le monde. La persévérance est indispensable pour vaincre vos ennemis. Persévérez dans ce que vous faites. Aucun succès n'est possible lorsqu'on cède, lorsqu'on abandonne. Vous, en tant que chrétien, ou vous, comme quelqu'un qui cherchait le Christ, suivez les conseils que le Christ vous donne dans la Bible. Aussi longtemps que nous poursuivons, nous tous, le chemin avec courage, avec persévérance, la réussite est toujours proche. La réussite est toujours possible. C'est une vérité de la Palisse, d'accord, mais il y a plus que cela. Nous devons vraiment mettre Dieu à l'épreuve, voir ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire, je suis d'accord avec vous, mais d'autre part, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec le Christ. Je dirais même que nous pouvons tout faire avec le Christ. Notez encore les paroles du Christ, et je cite dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 30. C'est un avertissement, voyez-vous. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, au commencement de cette émission, bien de ce sermon, je vous ai dit que le Christ compare le siècle où nous vivons avec le siècle de Noé. Notez-le. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ensuite, le Christ écrit ce qui arriva au temps de Noé et ce qui arrive aujourd'hui. Il dit, verset 27, Luc 17, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, ils s'en fichaient. Leurs enfants, c'est moi qui ai ajouté, ils s'en fichaient. Leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Voyez-vous, il faut être sur ses gardes. Il faut toujours être fidèle au Christ et savoir que ce que le Christ dit arrivera. Donc, faites lui confiance, respectez sa volonté. Ensuite, verset 28, ce qui arrivera du temps de Noé et de Lot, évidemment, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voyez-vous, ce sont des choses importantes, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses qui sont arrivées, qui sont passées. Les personnes qui, dès le commencement, ont prêté l'oreille à Dieu et qui prêtent l'oreille à Dieu réussissent souvent, réussissent toujours. Satan ne peut rien faire. Comprenez bien cela. Satan ne peut rien faire sans la permission divine. Sachez cependant que la crainte qui existe dans ce bas monde est plantée par Satan le diable, pas par Dieu. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas juste à ses yeux, nous en souffrons des conséquences. Ayez courage de résister à Satan, ayez courage à vivre d'après la parole de Dieu et marcher main dans la main avec le Christ. L'apôtre Jacques a écrit, « Soumettez-vous à Dieu et Satan s'éloignera de vous. » L'entourage humain, mes frères et mes sœurs, comme celle de Satan, ne veut pas se soumettre aux lois. Et c'est vrai, à moins que vous ayez la force divine, l'Esprit de Dieu en vous, Saint-Esprit, vous ne pouvez pas obéir aux lois. Car c'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne cet esprit d'obéissance. Je le répète, si vous êtes proche de Dieu, vous ne craindrez rien. Notez encore ce que l'apôtre Jean a écrit, et je cite, 1 Jean, chapitre 4, versets 18 à 19, la crainte n'est pas dans l'amour. Aujourd'hui, vous entendez parler d'amour. Tout le monde parle d'un amour qui n'est pas l'amour que décrit Dieu dans la Bible, mais le véritable amour, notez-le, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Voilà comment Dieu décrit la crainte et aussi l'amour parfait. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, dit-il, ces gens qui parlent sous l'inspiration divine, nous aimons le Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Rappelez-vous ceci. Si vous dites que vous aimez le Christ, sachez qu'il vous a aimé et il vous aime toujours. Il vous a aimé en le premier. Et encore au verset 20 à 21 de ce même chapitre, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voyez-vous, ce sont des mots forts. Ce sont des mots qui ne laissent pas de doute en ce qui concerne la compréhension. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc ne prétendez pas que vous aimez Dieu si vous détestez votre prochain. Car celui qui n'aime pas son frère, écrit Jean, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je répète, lorsque vous lisez la Bible, lisez-la les yeux ouverts. Et toujours demandez-vous, est-ce que moi je mets en pratique ce que Dieu dit dans ma Bible? Est-ce que je vis d'après ses commandements? Est-ce que je mets en pratique ou bien je répète comme un perroquet? Verset 21, toujours dans Jean, nous avons, dit-il, ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, c'est simple, c'est direct. Vous êtes, vous, moi, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes en quelque sorte des étrangers en ce monde jusqu'au moment où nous ouvrions les yeux pour appartenir à un seul groupe, à une seule famille. Adam et Ève, avant l'intervention de Satan, étaient une famille heureuse. Et Adam et Ève ne savaient pas ce que c'est que la crainte parce qu'ils avaient jusqu'à là, jusqu'à au mensonge de Satan, ils avaient cru en Dieu. Mais dès le moment où ils ont cessé de croire en Dieu et commencé à croire à Satan le diable, c'était fini. La crainte est entrée dans leur cœur. Notez bien cela. Dieu était leur protecteur. Dieu les protégeait toujours. Mais Dieu avait dit, si vous ne m'écoutez pas, si vous désobéissez à mes ordres, vous mourrez. Et Satan leur avait dit, non, vous ne mourrez pas. Dès ce moment-là, ce mensonge colossal a dominé le cœur de l'homme. Voilà d'où la crainte est entrée dans le cœur de l'homme. Voilà comment les choses se sont passées. Notez-le, Genèse 2, verset 16. Dieu donna cet ordre au couple. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est un mélange. Et que Dieu seul peut vous dire où est la vérité. Et du connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement, certainement. L'original hébreu dit ceci, tu mourras certainement. Alors que Satan a tordu. Non, vous ne mourrez pas du tout. Ensuite, Dieu sait que lorsque vous mangez de cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez, je paraphrase, vous serez comme des dieux. Voyez-vous, c'est ce mensonge qui domine, qui a dominé dès le commencement ce monde, en ce bon monde. Si vous avez vraiment un peu d'expérience dans la vie, si vous avez un peu de sagesse, je dirais même, vous vous demanderez d'abord pourquoi vous êtes né et pourquoi Dieu a donné au couple ce commandement. Ce qui est étrange, c'est que dès ce moment-là, le monde a cru en ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme. Non, l'âme n'est pas immortelle. Nous sommes tous des êtres mortels. Et si nous désobéissons à Dieu, nous mourrons. C'est ce que Dieu a dit par le passé, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, et c'est ce qu'il dira à tout jamais si nous continuons à vivre dans cette direction-là. N'ayez jamais peur de Satan. N'ayez jamais peur de succomber. Car Satan ne peut absolument rien faire pour autant que vous soyez proche de Dieu, pour autant que vous fassiez votre part, pour autant que vous vous disiez « Non, je sais que Dieu est mon Père et que je vivrai éternellement si j'obéis à Dieu et non pas si je crois aux paroles de Satan. » Non, mes frères et mes sœurs, n'ayez jamais peur, n'ayez jamais peur de Satan, ni de ceux qui prêchent des mensonges. Soumettez-vous à Dieu et Satan s'éloignera de vous. La nature humaine, comme celle de Satan, ne veut pas se soumettre à Dieu. La nature humaine, c'est ce qui a mal ou de mauvais en ce bon monde. Je répète, nos craintes, nos peurs, mauvais sentiments, justement, naissent lorsque nous nous séparons de Dieu et lorsque nous nous tournons vers Satan, parce que les voix de Satan sont, vous savez quoi, attrayantes. Et ils nous plaisent. Autrement dit, la nature humaine cède au péché. Le péché est agréable à la nature humaine. Mais le péché vous mène à la mort. D'abord, laissez-moi vous dire comment la femme a réagi. Lorsque Dieu a dit au couple, « Est-ce que vous avez mangé du fruit défendu ?» Regardez voir, c'était tout le monde, chacun blâmait l'autre. La femme blâmait l'homme, l'homme blâmait le serpent. En fin de compte, tout le monde blâmait Dieu. Voyez-vous, la femme a dit, vers Genèse chapitre 3, versets 2 à 5, elle dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais, dit-elle, voyez-vous, là encore, elle tord la vérité à sa façon. Nous ne devrons pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Mais dit-elle, de peur, et ça, c'est juste, de peur que vous ne mouriez. C'est alors que le serpent est intervenu. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, autrement dit, vous transgresserez les lois divines, que vous mourrez. Non, au contraire, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà comment le mal a commencé en ce bon monde. Voilà comment, sous la séduction satanique, le couple s'est détourné des yeux. Dès ce moment-là, voyez-vous, la crainte est entrée dans le cœur des hommes. Dès ce moment-là, ils ont commencé à se blâmer l'un l'autre. Dès ce moment-là, la désobéissance a conquis le cœur des hommes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous avons été dès le commencement. Autrement dit, dès le moment où le couple a mangé du fruit défendu. À travers les siècles, la désobéissance a été la racine de toutes les souffrances humaines. La désobéissance a causé la ruine des hommes. Les hommes ne veulent pas comprendre que Dieu entend ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il entend. Les hommes ne veulent pas croire que les lois divines ont été prescrites pour notre bien, pour le bien commun. Il y a beaucoup de choses en ce bon monde que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. Mais souvenez-vous d'une chose, Dieu est le Créateur suprême. Il est le législateur parfait. Il est le juge infaillible. Nous voulons de la justice en ce bon monde. Dieu est justice. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, est toujours justice. Est toujours basé sur l'amour. Dieu est le législateur parfait. le juge infaillible. Faites-lui confiance. Prenez courage et prenez toujours sa parole au sérieux. Si vous faites ça, vous verrez comment votre vie changera. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, j'ai beaucoup vécu dans ma vie. J'ai vu beaucoup de souffrances de part et d'autre. J'ai vu des gens mourir de maladies. Et pourtant, les gens, même si tout va contre eux, même s'ils souffrent, ils ne veulent pas croire que Dieu est bon. Parce qu'ils disent, comment est-ce que Dieu peut-il être bon si? Non, laissez tomber le si. Faites votre part, laissez Dieu agir. Vous savez, il y a une histoire intéressante, c'est l'histoire de trois Hébreux. À l'époque, les trois Hébreux n'avaient pas voulu obéir au roi, parce que le roi disait qu'il fallait adorer une statue au lieu d'adorer l'éternel Dieu, et la punition, le châtiment, ou bien vous adorez Dieu, ou bien vous serez brûlé dans l'étang de feu. En fait, dans un feu terrible. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage pour ne pas céder à la crainte. Mais les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont écouté le châtiment, ils ont tenu le coup, ils ont dit non, nous n'allons pas adorer ta statue. Voyez-vous, c'est difficile. C'est difficile, mais regardez voir la parole, comment eux, ils ont vraiment agi. Ils ont dit, « Sache donc, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'allons pas adorer la statue d'or que tu as élevée. » Autrement dit, il faut avoir du courage. Ils n'ont pas cédé à l'exigence du roi, même s'ils allaient mourir. Et vous savez quoi? Ils ont été jetés dans l'étang ardent, qui était 7 fois chauffé. Quel courage! Comment est-ce qu'ils ont pu, eux, maintenir ce courage, avoir ce courage? Parce qu'eux, ils avaient les yeux sur le Christ. Si vous faites ça, vous n'avez pas peur de quoi que ce soit. Ni d'un fait pareil, ni de Satan, ni de tout ce que les hommes peuvent vous faire, voyez-vous. Souvenez-vous d'une vérité essentielle. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, et vous pouvez être certain que Dieu vous ouvrira les yeux. Absolument. Mais soyez patient, soyez ferme, faites votre part. Ne soyez pas moitié-moitié. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et lui-même vous donne tout, si vous faites sa part. Autrement dit, si vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas maintenant, mais ce qui est essentiel pour notre salut, Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre et que nous puissions vraiment faire notre part. Allez donc de l'avant. Allez de l'avant, faites votre part. Ce que vous ne comprenez pas, vous comprendrez un jour, au moment opportun. Donc, vous ne dites pas, « Oh, je ne comprends pas. » Non, c'est une mauvaise excuse. Si vous ne comprenez pas, mettez-vous à genoux. Dites, « Dieu, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. Je veux faire ta volonté. » Aide-moi à comprendre, aide-moi à faire, et ensuite faites-le avec courage, avec détermination. Si vous faites ça, voyez-vous, vous verrez ce qui se passe. Parce que d'après la Bible, l'obéissance doit toujours précéder la compréhension. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que vous ne comprenez pas maintenant, mais si vous faites votre part, en temps utile, vous aurez la compréhension. Notez l'attitude de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, comme les autres apôtres, était appelé par le Christ, et le jour de la Pâque, à l'époque, le Christ s'est mis à laver leurs pieds. Ils ne comprenaient pas. Pierre, avec son tempérament, a commencé à rouspéter, pour ainsi dire. Entendez-le. Jean 13, verset 5 à 9. Ensuite, le Christ versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des apôtres, des disciples, les essuyer avec un linge dont ils étaient saints. Donc, il vient à Simon-Pierre. Voilà l'attitude de Simon, ou bien Pierre, si vous voulez. Il dit, « Toi, Seigneur, dit-il, tu me laves les pieds ?» Et le Christ a dit, « Ce que je fais maintenant, tu ne comprendras pas maintenant. » Notez-le. « Ce que je fais maintenant, tu ne comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Voilà la garantie. Fais ce que je te dis. Faites ce que Dieu vous dit, même si vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez bientôt. Quelle a été l'attitude de l'apôtre Pierre? Toujours ce désir de vouloir montrer ce qu'il peut faire, alors qu'il n'en est pas capable. Verset 8, il dit, jamais. Regardez-moi ça. C'est bon le courage, mais ce courage de Pierre n'était pas fondé, parce qu'il ne comprenait pas. Jamais, dit-il, tu ne me laveras les pieds. Ensuite, le Christ lui a ouvert les yeux. Il lui a dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Dès ce moment-là, l'esprit de l'apôtre Pierre a été ouvert. Et quelle a été sa réponse? Verset 9. Pierre dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, etc. » Voilà, voilà. C'est juste, cette réaction est juste, mais pourquoi attendre jusque-là? Pourquoi ne pas, dès le commencement, obéir au Christ? Si vous faites votre part, je répète, vous recevrez toujours ce que vous demandez. La foi dont on parle, tout le monde veut avoir la foi. Bien, vous aurez la foi, mais avant d'avoir la foi, ayez cette détermination, cette certitude que ce que Dieu a promis, vous l'aurez. C'est ainsi que la foi commence à produire des fruits. En vous, en nous tous. Une fois que vous croyez en Dieu, une fois que vous faites, même si vous ne comprenez pas, vous commencerez à être déjà vainqueur. Vous sortirez vainqueur en fin de compte. Foi en Dieu, en sa parole, c'est tout ce que vous devez toujours faire, en tout lieu, même, comme vous voyez, si vous ne comprenez pas. Si Dieu dit une chose, faites-la. N'hésitez pas. Regardez encore l'apôtre Pierre, comment il a décrit sous l'inspiration divine ce qu'on appelle la foi. Une description fantastique de ce qu'est vraiment la foi. Hébreux 11, verset 1. Paul écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Notez-le, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de voir quelque chose pour croire. Comme le Christ a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Donc, si vous avez foi, si vous pensez que Dieu va vous aider, faites-lui confiance. Même si vous ne voyez rien, même si vous voyez comme c'est et les trois Hébreux, le feu ardent, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, même si Dieu ne vient pas à notre secours, nous allons quand même adorer Dieu et non pas la statue d'or. Voilà la différence. Prenez l'exemple des Israélites. C'est triste car les Israélites, à l'époque, avaient Dieu en tant que leur maître. Ils avaient Dieu et les commandements de Dieu pour suivre. Mais ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient être comme les autres peuples. Donc, ils ont voulu adorer la création, pour ainsi dire, au lieu du Créateur. Dieu a fait 10 miracles pour montrer aux Israélites que lui, l'Éternel Dieu, avait l'intention de les faire sortir d'Égypte. Parce qu'il avait promis que Israël serait délivré de la main de Pharaon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré cette promesse, malgré l'assurance divine, malgré tout ce que Dieu a fait, des miracles qu'il a fait, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, la première chose à laquelle ils ont cédé, c'était la peur. Attendez, notez-le. Exode 14, verset 10. 14. Les Israélites ont vu Pharaon s'approcher. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Mais d'accord, mais ils n'ont pas vu devant eux le Christ marcher. Ensuite, donc, les enfants d'Israël eurent peur, eurent grande effrayeur. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que vous avez peur, vous commencez à blâmer quelqu'un, et dans ce cas-là, ils ont blâmé Dieu. Voilà comment la nature humaine réagit. Ils ont dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Eux, ils étaient en Égypte, eux qui souffraient. Voilà maintenant qu'ils blâment Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. C'était Dieu qui avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Mais maintenant, puisqu'ils ne peuvent pas blâmer Dieu directement, ils blâment Moïse. Ils disent, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Regardez voir, ils veulent retourner en arrière, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Où est-ce que vous voyez dans la Bible que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël et d'Égypte pour les faire mourir au désert? Voilà un gros mensonge. Pourquoi est-ce qu'ils avancent ce mensonge? Pourquoi? Parce qu'ils veulent se justifier. Parce qu'il faut qu'ils blâment quelque chose. Ils blâment Moïse, ils blâment Dieu. Et alors qu'ils avaient la promesse divine que Dieu les aiderait à sortir d'Égypte, voilà qu'ils veulent retourner en arrière. Ils disent, n'est-ce pas là que nous, ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Non, ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas demandé à Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens. Au contraire, ils ont dit, fais-nous sortir. Voyez-vous comment le cœur humain est tortueux. Ils disent, verset 12, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Peut-être. Mais vous mourrez de toute façon. Si vous mourrez, si vous servez les Égyptiens, vous mourrez de toute façon. Voyez-vous, les Israélites n'ont jamais compris la bonté de Dieu. N'ont jamais su ce que c'est que aimer Dieu, ce que c'est que obéir à Dieu, ce que c'est que vraiment faire confiance à Dieu. Heureusement qu'il y avait Moïse. Moïse avait beaucoup plus de sagesse que le peuple. Alors Moïse a eu le courage de se lever, de faire face au peuple. Il a dit, et je cite, verset 13, Exode 14, il dit, « Ne craignez rien. » Voilà, voilà la force, votre force, ma force, c'est de ne jamais craindre pour autant que Dieu est avec nous. Il dit, « Ne craignez rien. Restez en place. » Autrement dit, « Soyez tranquilles. » Il dit, « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour-ci. » C'est ce courage dont je vous parle. Vous avez toujours des difficultés, vous avez toujours d'ennemis, vous avez toujours la Satan, le diable, vous avez des maladies, des craintes, tout ce que vous voulez. Mais regardez devant vous, il y a toujours Dieu, l'Éternel est avec vous. Et donc Moïse a dit, l'Éternel va vous accorder en ce jour la délivrance. C'est cette promesse qui est toujours vraie, c'est cette promesse qui va vous aider à arriver au but. Et à moi, évidemment. Ce n'est pas facile, je sais. Nous avons des difficultés en ce moment qui parfois semblent impossibles à vaincre. Et elles sont impossibles. Mais tout est possible avec Dieu. Après 10 miracles, comme je viens de vous dire, lorsque les Égyptiens attaquaient ou poursuivaient les Israélites, Dieu a montré par la bouche de Moïse, écoutez, restez tranquille. La délivrance est devant vous. Ne craignez rien. Restez en place. Ensuite, au verset 14, regardez-moi cette belle promesse. Une promesse que Dieu fait et que personne ne peut jamais effacer ou faire oublier. Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous, verset 14, et vous, vous gardez le silence. Vous savez, souvent, et j'ai des difficultés, comme tout le monde, j'ai des moments difficiles, comme tout le monde, et parfois, lorsque j'ai presque envie d'abandonner, je me rappelle les paroles de Moïse. Il dit, ne craignez rien, gardez le silence. Chaque fois que vous vous plaignez, vous ne gardez pas le silence. Chaque fois que vous voyez le mal autour de vous, vous ne gardez pas le silence. Le silence, c'est lorsque vous fermez la bouche, vous fermez les attaques de l'ennemi, vous dites, Dieu est mon protecteur, Dieu garde sa parole, je vais obéir à Dieu, je vais craindre Dieu et non pas les hommes. Voyez-vous, ce sont des choses que vous et moi, nous savons, et pourtant, nous ne faisons pas attention. Si Dieu n'est pas votre sauveur, qui peut être votre sauveur? Je vous pose la question. De même, voyez-vous, le Christ, à l'époque, il a dit, gardez le silence et vous aurez le succès. Je continue, je saute plusieurs passages parce que je n'aurai pas le temps. Dans Éphésiens chapitre 6, nous revenons donc au Nouveau Testament. Nous revenons à l'apôtre Paul, lui qui a tellement souffert. Regardez voir ce que l'apôtre Paul dit. Il parle d'une façon forte, d'une façon convaincue, d'une façon absolument qui ne laisse pas de doute. Paul a eu beaucoup de souffrances. Paul a été en quelque sorte abandonné, et pourtant il savait qu'il n'était jamais abandonné. Regardez voir ce qu'il dit, à vous et à moi. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Fantastique comme assurance. Il dit, revêtez-vous, dit-il, de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, mais regardez voir cette force. Si vous vous revêtez de toutes les armes de Dieu, dit-il, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà votre assurance. Je ne peux rien faire, je ne peux pas vous aider, mais Dieu peut vous aider. Je peux certes faire ce que je peux faire pour vous aider à ma façon, mais ce n'est rien à comparer à la façon divine. De toutes les armes, donc Dieu a des armes. Ce sont ces armes-là dont vous avez besoin pour vaincre Satan, pour tenir ferme contre les ruses de Satan. Verset 12, Éphésiens 6. Car nous n'avons pas, dit-il, à lutter contre la chair et le sang. Non. Notre lutte est beaucoup plus grande. C'est contre le diable, un être spirituel qui va être détruit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, c'est-à-dire les diables, les démons, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Ce sont ces esprits méchants qui auparavant étaient des anges, mais sont devenus des démons, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont oublié que Dieu peut tout faire, que Dieu est le maître absolu. C'est pourquoi, dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Il répète, toutes les armes, pas une partie, car Dieu a plusieurs armes. Prenez-les toutes. Et Paul décrit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le jour, qu'est-ce que ce mauvais jour? Ce mauvais jour, c'est lorsque les choses vont empirer, lorsque le diable va être en rage, lorsqu'il va vraiment attaquer toute la terre. Mais pour autant que vous ayez le Christ avec vous, n'ayez jamais peur. Pour autant que vous ayez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce ne sont pas des paroles vides de sens. Je ne lis pas ça pour que vous puissiez écouter. Moi, je voudrais que vous puissiez vous-même lire cela vous-même de vos propres yeux. Mettez-vous à genoux s'il le faut et dire « Dieu va me protéger, Dieu va m'aider, je n'ai pas peur vraiment de quoi que ce soit. » Là, alors, vous êtes sûr que c'est juste parce que Dieu ne ment pas. Verset 14, « Tenez donc ferme. » Et ensuite, Paul donne les détails. Il dit « Ayez à vos reins de la vérité pour ceinture. » Qu'est-ce que la vérité? Le Christ a dit « Ta parole est la vérité. » Autrement dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, constitue la vérité. Alors le Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, dit « Ayez à vos reins de la vérité pour ceinture. » Si j'ai la vérité pour ceinture, je n'ai pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Revêtez-vous, dit-il, la cuirasse de la justice. Nous savons tous ce que c'est que la cuirasse. Un soldat en a besoin, mais nous avons besoin de la cuirasse forte, d'une cuirasse invincible, une cuirasse que rien ne peut détruire. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ce sont des promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit à nous tous, ce qu'il a promis, voilà ma garantie. Je n'ai peur de rien car je porte, je me revêts plutôt la cuirasse de la justice. Commencez-vous à comprendre la puissance de Dieu, à comprendre comment vous pouvez vraiment voir jusqu'où vous pouvez aller. Jésus a toujours été et il sera toujours avec nous tous. Si vous avez en tête que le Christ est votre maître, votre protecteur, vous verrez une chose. Vous verrez que si vous avez foi en Dieu, vous ne fléchirez jamais. Il y a tellement d'exemples que j'aurais voulu vous donner, mais l'un des meilleurs exemples que je puisse vous donner, c'est ceci. Prenez cet instrument de foi dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens. Je continue, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Regardez-moi ça, regardez-moi cette assurance. D'abord, vous avez chaussure à vos pieds. Pour marcher, pour avancer, le zèle, pas non, pas tienne, mais zèle. Zèle que donne l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle du retour du Christ. L'évangile de paix. Cet évangile du Christ n'est pas un évangile de guerre. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a que des guerres autour de vous, le Christ viendra pour amener la paix avec lui. C'est là notre espoir. Voyez-vous, ayez toutes ces armes et prenez par-dessus, verset 16, le bouclier de la foi. C'est beau, voyez-vous, comme c'est décrit. C'est quoi un bouclier? Un bouclier protège le soldat. Ça vous protège contre toute attaque. Donc, le bouclier de la foi. Si Dieu a promis une chose, Dieu gardera sa promesse. Quoi qu'il en soit, mais vous devez faire votre part. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Là encore, prenez la phrase entière, non pas une partie des attaques de Satan, mais de toutes les attaques de Satan. Voilà votre garantie. Et ces traits enflammés de Satan, vous pourrez les vaincre avec cette cuirasse que l'apôtre Paul vous donne. Ou vous montre plutôt dans la Bible. verset 17. Prenez, dit-il aussi, le casque du salut. Autrement dit, il nous décrit comme si nous étions un soldat. Et nous le sommes. La cuirasse, le bouclier. Et faites votre part, mes frères et mes sœurs. Ne soyez pas peureux. Ne soyez pas, ne dites pas, je ne peux pas. Certes, vous ne pouvez pas, je suis d'accord avec vous, mais c'est Dieu qui fait, ce n'est pas vous. Si Dieu a promis quelque chose, c'est lui qui vous donnera toute la force dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ce sermon, voyez-vous, je vous ai montré comment avoir du courage. Ça ne vient pas de vous, pour ainsi dire. Ça vient de Dieu. C'est le Christ qui vous donne le courage. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, vous donne toute la force dont vous avez besoin. Ayez foi en Dieu. Obéissez à Dieu en toutes choses. Croyez à sa parole. Ce sont des choses solides. Ce sont des vérités de base. Ce sont des vérités indispensables dans tous vos rapports, non seulement avec Dieu le Père, mais aussi avec les promesses divines. Nous savons que Dieu ne ment pas. Ça, c'est absolu. Bien que vous voyez des choses autour de vous qui vous font penser que Dieu ment, non, Dieu ne ment jamais. Mais voyez les choses à sa façon, non pas d'après votre façon de voir. Vous ne voyez que les yeux fermés. Tandis que Dieu, dans sa parole, vous dicte d'ouvrir les yeux et de voir, et de ne jamais douter de lui. Non, Dieu ne ment pas, mais il fait toutes choses d'après sa parole. Il fait toutes choses d'après les promesses qu'il a faites, à condition que vous fassiez votre part. C'est là où la plupart du temps, nous ne faisons pas notre part. La vie a un but. Ce but suprême, c'est qu'un jour nous puissions être, nous tous, des enfants de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a sacrifié son Fils, le Christ, afin que nous puissions, nous aussi, être un jour comme son Fils. Autrement dit, enfants de Dieu. Enfants qui vivent éternellement. Et maintenant, comparez à tout ce que je vous dis ici, comparez vos difficultés avec les promesses divines. Certes, vous avez des problèmes, tout le monde en a. Certes, vous avez des tristesses parfois, tout le monde en a. Mais regardez voir le sacrifice suprême du Christ. Lui, le Créateur suprême, est venu nous donner sa vie, mourir pour nous, nous qui sommes poussières, afin que nous puissions un jour hériter la vie éternelle. Voyez-vous, si vous êtes, vous, en tant que création, si vous, vous êtes une création des enfants de Dieu, vous verrez que ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il fera toujours pour que vous puissiez, vous, arriver au but. N'oubliez pas les paroles du Christ. Les paroles du Christ qui a dit, et c'est beau, parce qu'il a parlé, le Christ, de l'avenir. Non pas de l'avenir humainement parlant, mais de l'avenir en ce qui concerne spirituel. Le véritable chrétien est celui qui comprend la différence entre ce qui est tangible et ce qui n'est pas tangible. Nous sommes aujourd'hui, vous et moi, en ce bas monde tangible. Nous jugeons les choses d'après ce que nous voyons. Les cinq sens physiques que nous avons sont des sens physiques. Tandis que Dieu veut que nous puissions voir les choses à sa façon, c'est-à-dire les yeux ouverts, les yeux spirituels. Nous avons chacun devant nous un choix. Un choix de faire ce que Dieu nous dit de faire d'une part, le choix de faire ce que nous voulons faire. Le choix d'obéir à Dieu, malgré les circonstances, et de nous soumettre à au caprice de Satan et jouir peut-être pour un peu de temps notre vie terrestre et ensuite perdre tout. Il est grand temps, mes frères et mes sœurs, de prêter l'oreille aux enseignements du Christ. Le Christ n'est pas venu pour mourir pour rien. Il est venu pour mourir pour que vous, qui que vous soyez, ou moi, que nous puissions, nous, avoir un jour l'héritage éternel d'être enfant de Dieu. C'est ça le but de la vie. C'est pourquoi le Christ a tout donné, même sa vie. C'est pourquoi le Christ a dit, si vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez. Faites confiance en Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 32. Regardez-moi cette promesse du Christ. C'est là le but de la vie. C'est là où nous pouvons puiser notre force. Nous pouvons dire, oui, je comprends, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu fera tout ce qu'il a promis sans jamais mentir. Matthieu 6, versets 25 à 32. Le Christ a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Voyez-vous, il couvre tous les aspects de la vie physique. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et nous oublions ça souvent. Il dit, et le corps, plus que le vêtement? Nous faisons tellement de soucis pour ce que nous allons faire ou vivre, nous vêtir, manger. Le Christ dit, verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Et c'est un ordre pour vous, pour moi. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ensuite, le Christ parle et pose une question fantastique. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Certes, mais dans ce cas-là, agissez en tant que des créatures qui sont nées pour un jour naître dans la famille divine. Qui de vous, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Non, tous vos soucis, toutes vos inquiétudes ne vous mènent à rien. Vous n'aurez pas vraiment la vie éternelle par vos inquiétudes. Vous aurez la vie éternelle en faisant ce que le Christ a dit, en faisant sa volonté, en vous soumettant à sa volonté. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Rien, on ne peut rien faire. Je peux penser que je peux faire quelque chose, mais humainement parlant, je ne peux absolument rien faire. Comptez sur Dieu. Et pourquoi dit-il vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne sèment. Et pourtant, les Christiers, voyez-vous, et pourtant, les oiseaux, et pourtant, les créatures ont de quoi avoir ce dont ils ont tous besoin. Cependant, dit-il, verset 29, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas? Regardez la question que le Christ vous pose, avouez à moi. Ne vous vêtira-t-il pas plus fort, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ayez foi en Dieu, ne doutez jamais de sa parole. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Voilà les paroles finales du Christ. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, regardez-moi cette promesse infaillible, car toutes ces choses, ce sont des païens, ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'obéissent pas en Dieu. Ce sont des païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et après cela, le Christ nous donne la promesse sublime. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses. C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin vous seront donnés par-dessus. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que c'est que le courage? Comprenez-vous ce que c'est que d'avoir foi en Dieu? Affronter l'adversité avec courage. Si vous faites votre part, soyez absolument convaincus que Dieu fera sa part. Si vous obéissez à Dieu, Dieu gardera toujours ses promesses envers vous. Laissez Dieu combattre pour vous. C'est le courage dont vous avez besoin, le courage le plus indispensable dans votre vie. Laissez Dieu combattre pour vous. Ne vous découragez jamais. Si le Christ est votre chef, si le Christ est votre frère aîné, si le Christ est votre créateur, dans ce cas-là, faites toujours ce qu'il vous dit et vous serez toujours béni. Un jour, peut-être, vous et moi, nous nous mettrons ensemble et nous penserons à ce monde où nous vivons aujourd'hui et parfois nous nous dirons comme nous avons été ingrats, comme nous avons manqué à nos paroles, comme nous avons manqué l'occasion de nous approcher de Dieu et de jouir davantage de ce monde physique dans lequel nous vivons aujourd'hui.